Sur France Culture, il est 8h17. Pas de marche pour le climat aujourd'hui en France, depuis que le gouvernement a limité la jauge des rassemblements à 100 personnes maximum. La plupart sont annulées, tout comme les manifestations culturelles. C'est un des nombreux impacts, vous l'avez entendu dans le journal, de l'épidémie de coronavirus. Pas de marche climat donc, mais quelles conséquences cette crise peut-elle avoir sur l'environnement? La baisse de l'activité va-t-elle contribuer à une baisse durable des émissions de gaz à effet de serre? Et que nous révèle cette épidémie de notre modèle de développement? Pour en discuter, Christian de Pertuis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur à l'Université Paris-Dauphine. Vous y avez fondé la chaire économie du climat et vous avez publié récemment le tic-tac de l'horloge climatique, une course contre la montre pour le climat. C'est aux éditions Debecq. Alors, on l'a vu, une partie du monde est à l'arrêt à cause de l'épidémie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ne serait-ce que temporaire, pour le réchauffement climatique, Christian de Pertuis?
Alors, c'est difficile de parler de bonnes nouvelles lorsque on fait face à la plus grave crise sanitaire depuis un siècle, hein, si vous voulez. La question, c'est est-ce que l'impact économique fait baisser les émissions de gaz à effet de serre? La réponse est oui. La réponse est oui, mais je crois que l'important, c'est de bien comprendre le mécanisme tout à fait nouveau de cette récession. L'économie chinoise est encore en récession. Cette semaine, l'économie européenne est entrée en récession. Et le dévissement des bourses et quelques soubresauts aussi sur les marchés obligataires créent un nouveau canal de transmission sur le plan économique. Et il est clair que les États-Unis ne vont pas rester en croissance. Donc on va faire face à une récession mondiale dont on ignore encore et l'ampleur et la durée, mais dont on peut déjà dire un certain nombre de choses quand on regarde les premiers qui sont tombés, à savoir l'Est de l'Asie et d'abord la Chine.
Oui, parce que quand vous dites la réponse est oui, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des mesures qui permettent d'évaluer, tout cela bien sûr étant extrêmement temporaire, mais d'évaluer l'impact de cette baisse de l'activité économique sur les émissions de gaz.
On peut l'évaluer sur la Chine, hein, puisque c'est les premiers à être tombés. L'étude la plus complète sur la question a été publiée il y a maintenant 2 semaines. Elle a été remise à jour il y a quelques jours. On estime en Chine que sur un mois, le mois qui a suivi la fin du Nouvel An chinois, les émissions chinoises ont baissé d'environ 25%, soit 200 millions de tonnes de CO2. 200 millions de tonnes de CO2, ça représente à peu près en un mois l'équivalent de 2/3 du total des émissions de la France sur un an. Autre comparaison, en 2009, la récession économique mondiale avait fait baisser les émissions de gaz à effet de serre de 500 millions de tonnes de CO2. Donc l'effet est massif. On le voit très bien lorsqu'on regarde les photos satellites. On ne le voit pas sur le CO2 puisque le CO2 est invisible, mais on le voit sur les autres pollutions locales qui sont liées à l'usage des fossiles. Alors, comment est-ce qu'on peut caractériser cette récession? Elle est tout à fait inédite pour les économistes. Parce que, en général, les récessions proviennent de mécanismes économiques ou financiers. Là, ce sont les gouvernements qui créent la récession. Les gouvernements gèlent l'activité en commençant à confiner les gens, d'où des difficultés pour aller à son travail. Gèlent l'activité, confinent les gens, les mesures freinent la consommation. Un nombre croissant de pays en Europe interdisent aux gens d'aller au commerce, sauf les commerces de première nécessité. Donc il y a un arrêt brutal de l'activité. Et la question c'est, combien de temps ça va durer? Alors l'arrêt brutal de l'activité, il crée un choc de baisse d'émissions de gaz à effet de serre qui est, je crois, absolument inédit. J'ai fait quelques calculs de coin de table, donc je vais vous donner un peu les résultats. En 2009, je l'ai dit tout à l'heure, la baisse de 500 millions de tonnes de CO2, je pense que là, on va baisser beaucoup plus les émissions, parce que les secteurs les plus touchés sont également les secteurs les plus émetteurs. Le premier secteur qui est touché, c'est tout ce qui concerne le transport. Les transports internationaux avec le tourisme, mais les transports nationaux, lorsqu'on vous confine, vous n'allez plus bouger. Et les transports, je le rappelle, dans les pays développés, c'est à peu près pas loin du tiers des émissions de CO2, et dans les pays émergents, c'est une fraction croissante. Donc on a un impact très brutale sur les émissions de CO2. Donc,
parce qu'il y a un certain nombre de décisions, donc d'interdiction de liaisons aériennes, notamment.
De se transporter, si vous voulez. Hein. Et puis, derrière ça, les grands outils industriels qui émettent le plus de CO2 sont très vite en surcapacité, donc on diminue les... Donc ça, c'est ce qui se passe. Et je pense que pour le même... Si la récession est courte, et si on ressort assez vite, grâce aux mesures de relance dont on va parler tout à l'heure, dans le meilleur des cas, je pense qu'on aura une récession mondiale équivalente à celle de 2009, mais la baisse des émissions sera facilement de 2 à 3 fois supérieure.
Mais alors, restons justement sur ce point de comparaison avec la précédente crise, qui s'était traduite par une baisse importante des émissions de gaz à effet de serre, mais après, une fois que la crise avait commencé à se résorber, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura une forme de rattrapage? On peut aussi considérer que, une fois qu'on aura passé ce traumatisme, car c'en est un, hein, de ce bouleversement de l'organisation de la société, il peut très bien y avoir une volonté de rattraper un peu le temps perdu, de voyager davantage, de consommer davantage et si ce n'est d'annuler, mais en tout cas d'atténuer considérablement les effets de cette baisse d'émissions de CO2. Enfin, CO2, ce n'est pas le seul gaz à effet de serre, mais enfin, c'est, disons, c'est celui dont on parle le plus.
C'est le principal quand même et c'est celui qui est le plus sensible à la conjoncture. Dans les mesures qui sont prises par les pouvoirs publics, on voit bien que les mesures à court terme sont des mesures de protection. Il s'agit de protéger la capacité de production en ayant par exemple recours au chômage partiel plutôt qu'au licenciement. Le cas d'Air France est tout à fait représentatif. En ayant recours à des mesures de trésorerie, hein, le cas d'Air France est également représentatif. On a un choc brutal, donc on n'a plus de trésorerie. S'il n'y a pas une politique publique qui injecte très vite de la trésorerie, on va perdre. Donc à court terme, aussi bien en Chine qu'aujourd'hui en Europe que demain aux États-Unis, la politique publique consiste à préserver au maximum la capacité productive. Les premiers signaux qu'on a sur la Chine laissent penser que, effectivement, la baisse est achevée, la reprise est pour l'instant très lente. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on va avoir une reprise aussi forte que celle qu'on a eue après 2009. Je rappelle qu'en 2009, on a perdu 500 millions de tonnes de CO2 en 2009. L'année d'après, on a augmenté de pratiquement 3 fois. Donc, on a assez largement rattrapé. Je pense que il faut regarder les choses peut-être avec un certain recul historique. Et vous permettrez juste de faire 3 comparaisons. La première fois que les émissions de gaz à effet de serre ont baissé dans le monde, c'était quand ?
Ben vous allez me le dire, Christian Aperfil.
Après le deuxième choc pétrolier, pendant 2 années consécutives, les émissions ont baissé d'à peu près 5%. Et puis qu'est-ce qui est arrivé ensuite ? Le contre-choc et les émissions sont reparties. Mais il y a une zone économique qui a atteint son pic d'émissions en 1980, je ne vais pas vous demander laquelle, c'est l'Europe. Le deuxième choc, complètement extérieur à la politique climatique qui a fait baisser les émissions dans le monde, c'est 1991-1992, l'écroulement de l'Union soviétique. Les émissions mondiales sont reparties, mais le pic des émissions dans l'ensemble des économies du bloc soviétique, ça a été 1990. La troisième choc dont on a parlé, c'est 2009. Les émissions sont reparties en hausse après,
mais
plus lentement que jusqu'en 2009. Mais il y a un grand pays qui a atteint son pic d'émissions à ce moment-là, c'est les États-Unis.
Est-ce que ça veut dire que pour vous, Christian Depertu, alors même si on ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir, mais il en reste toujours quelque chose finalement
de ces crises. Voilà. Et donc, moi, je pense que il va évidemment y avoir un rattrapage. Et heureusement, parce que qui d'entre nous a envie de continuer à vivre ce que nous allons vivre pendant le mois prochain, si vous voulez. Bon, donc, on va tous avoir envie de rattraper quand on n'aura pas été au restaurant, au cinéma pendant un mois, peut-être 2 mois, on ne sait pas. Hein, évidemment, il faudra rattraper parce que quand même, ça va pas être marrant. Hein, bon. Mais la question, c'est est-ce qu'on va rebondir et compenser? Moi, je ne pense pas. Pour 3 raisons. La première raison, c'est que le contexte de la Chine est très différent de celui des années passées. Et je pense qu'il y a une grande chance pour que la Chine ait atteint son pic d'émissions en 2019. Déjà parce que dans la décennie qui a précédé, Elle a très fortement modifié sa politique énergétique. Elle a beaucoup investi dans les renouvelables. Elle a ralenti ses émissions. Et les méthodes de relance ne pourront plus reprendre les vieilles méthodes ancestrales. Donc je pense que la Chine, qui représente 27% des émissions mondiales de CO2, risque d'avoir passé son pic d'émissions. Ça, c'est la première.
La deuxième.
La deuxième raison, c'est que en Europe, une fois passées les mesures de court terme, on va faire des mesures de relance. Et ces mesures de relance vont s'inscrire dans le cadre du Green Deal. Donc on va accentuer l'investissement public qui sera dirigé vers l'économie verte. La troisième raison, c'est que dans le reste du monde, on a déjà des signaux antérieurement à la crise économique que il y a un basculement partiel, mais qui se développe vers les énergies verte.
Est-ce qu'on pourrait rajouter une quatrième raison, Christian de Pertuis, qui serait que toute crise peut aussi modifier un certain nombre de comportements? Alors, on a beaucoup parlé avec la crise dans les transports, notamment à Paris, d'un développement de la bicyclette. Est-ce qu'il pourrait, là aussi, y avoir peut-être une autre façon d'aborder, par exemple, la question des transports et des voyages? Est-ce que ça, c'est un phénomène qu'on arrive à observer?
Non, pour l'instant, on n'observe rien. On pourra observer dans 2-3 ans, rétrospectivement, on dira si. Je pense qu'il y a deux choses qui vont être importantes dans les modifications d'organisation. Il y a effectivement les comportements de mobilité, mais ça concerne les personnes, mais également les marchandises. Je pense que on est dans une phase où on va réduire l'hypermondialisation, l'hyperspécialisation, hein, parce que la fragilité de ce système hypermondialisé à une crise sanitaire, on la retrouve aussi en économie, notamment via les canaux de transmission que j'ai indiqués tout à l'heure. Donc il va y avoir, je pense, un retour au système protectionniste, mais une limitation de ces modes d'organisation sur la mobilité des marchandises et des personnes. Et puis deuxièmement, je pense que le choc de la crise, au moins dans les pays développés, va tester des nouveaux modes d'organisation du travail, y compris du travail des profs d'économie. On va peut-être faire moins de conférences, on va peut-être faire plus de télétravail, et donc ça, c'est sans doute aussi des retombées positives à moyen terme, mais pour l'instant, c'est plus une hypothèse optimiste que quelque chose qui peut être vérifié.
Voilà, en même temps, ça fait pas de mal, hein. Un petit peu d'optimisme en ce moment, Christian de Pertuis. On a vu un peu quels pouvaient être les impacts, en tout cas à court terme, ce qu'on peut imaginer ou voir espérer un peu plus long terme. On reviendra dans un instant sur ce que révèle aussi peut-être cette crise de notre modèle de développement. C'est ce que disait Emmanuel Macron jeudi soir. Il nous faudra demain tirer les leçons, interroger le modèle de développement qui révèle un certain nombre de faiblesses. On y revient dans quelques minutes avec vous, Christian de Pertuis. Mais pour l'heure, il est 8h30 sur France Culture. Voilà une histoire et un conseil de lecture qui doit vous intéresser, Christian de Pertuis.
Absolument. Ça m'intéresse d'autant plus que j'ai été professeur invité il n'y a pas longtemps à l'Université de Montréal. Et j'ai beaucoup discuté avec Jacques Papy, qui est prof de droit à l'université et qui est en train de refaire les programmes pluriannuels de droit. Et l'incorporation du droit des peuples autochtones dans le programme académique est effectivement un casse-tête. Parce que jusqu'à présent, on considérait que ça n'existait pas, si vous voulez. Et pour refaire les programmes, l'objectif de l'université, c'est bien d'intégrer justement une dimension des peuples autochtones. Mais il n'y a pas un seul juriste dans l'université qui est issu des peuples autochtones.
Et les cadres juridiques...
Attendez, oui, Mathéo, on ne vous entend pas. Ça y est, on va vous remettre le micro.
Et les cadres juridiques proviennent justement de pactes qui ont été signés au 19e siècle et qui sont en général très défavorables aux
Indiens
autochtones. L'Indian Act de 1800.
Absolument, oui, oui. Non, donc c'est un problème. Alors, ce qui est très intéressant aussi sous l'angle du climat, c'est l'enjeu sur les infrastructures de transport d'énergie en Amérique du Nord, mais pas qu'en Amérique du Nord. Et quelque part, ça rejoint un peu des enjeux qu'on trouve dans la protection de la forêt tropicale. C'est-à-dire que dans ces enjeux, aujourd'hui, le poids des peuples autochtones peut être un facteur très important de ralentissement de ces projets d'infrastructure qui sont très importants à moyen long terme. Pourquoi ? Parce que aussi bien le Canada que les États-Unis ont des capacités d'exportation potentielle de pétrole de schiste pour le Canada, de charbon pour les États-Unis sur la zone Pacifique. Et il y a le même problème aux États-Unis, hein. C'est pas les mêmes peuples, mais c'est de faire franchir des réseaux de transport à travers le Wyoming où vous avez des tribus indiennes.
ralentissement, Christian de Pertuis. Alors, je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Vous avez fondé la chaire économie du climat et que vous avez publié récemment le tic-tac de l'horloge climatique aux émissions de Beck, aux éditions de Beck. Ralentissement, mais pas remise en cause de ses choix, notamment de politique énergétique. Et je reviens à ce que disait jeudi soir Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée. Il nous faudra demain tirer les leçons, interroger le modèle de développement qui en révèle les faiblesses. En quoi diriez-vous que cette crise autour du coronavirus révèle peut-être les faiblesses de nos modèles de développement et en quoi ça pourrait être aussi un moment, au-delà des effets que cela peut avoir à court et à moyen terme, est-ce que ça pourrait avoir des effets sur la réflexion, sur le regard que l'on porte sur la façon dont les sociétés se sont organisées et se sont développées?
Alors, c'est toujours un peu tôt pour apporter des réponses globales, mais...
Oui, mais on voit bien on voit bien apparaître un certain nombre d'absurdités, en tout cas d'incohérences dans la façon dont...
Si vous voulez faire les réponses en même temps que les questions, allez-y,
mais... Non, mais je vous guide un petit peu.
Merci du message, oui. Alors, moi, ce que je pense, si vous voulez, c'est assez simple. Hein. La crise du coronavirus, qu'est-ce qui a fait cette dissémination si rapide? C'est la mobilité. C'est l'hypermobilité des hommes. À la différence d'autres grandes maladies, par exemple le phylloxéra, il est venu dans des caisses. Là, c'est la mobilité des hommes. Oui. Et on voit bien que derrière cette mobilité des hommes, il y a aussi la mobilité des capitaux, la mobilité des marchandises. On a construit effectivement depuis 40 ans à peu près un système économique mondial qui est un jeu d'interdépendance incroyable. Ce jeu d'interdépendance, il crée des fragilités économiques, il crée de très grands risques climatiques à moyen et long terme, et il peut déboucher sur des crises sanitaires très importantes. Je voudrais quand même rappeler que on verra, une fois que la crise sanitaire sera passée, les décomptes, ce système a aussi quand même, grâce à la connaissance, grâce à la capacité de réaction rapide, des vertus de protection des vies. Hein. La grippe espagnole entre 1918 et 1920, on ne sait pas si c'est 20 millions ou 100 millions de personnes qui sont décédées. Hein. Bon. On va pas aller jusqu'à la peste au Moyen-Âge où c'était carrément le quart de la population qui est décédée. Donc, je pense qu'il faut pas non plus verser dans une vision de l'effondrement, si vous voulez. Il y a un certain nombre de gens qui disent, ben voilà, ils sont déjà des théoriciens de l'effondrement et donc ils en rajoutent une couche en disant, vous voyez, ça s'effondre avec la crise. Donc, je pense que,
vous n'y voyez pas une preuve que les sociétés seraient en mesure de s'effondrer. La collapsologie, c'est pas votre truc, Christian de Pertuis?
Ça dépend ce qu'on entend par quoi. Ça dépend qu'est-ce qui va s'effondrer, si vous voulez. Je pense que le terme est très, très, très dangereux. Si par la collapsologie on entend la fin du monde, non, je n'y crois pas. Si par la collapsologie on entend effectivement la fin d'un certain mode d'organisation, ça, j'y crois. Et j'y crois parce que les méthodes de type capitaliste. Parce qu'aujourd'hui, il y a une guerre des capitalismes. Vous avez un capitalisme, on va appeler thermo-industriel, qui est défendu par Trump, par un peu les Canadiens, qui est basé sur les énergies fossiles. Et puis, vous avez un capitalisme de réseau, un capitalisme... c'est Tesla contre Mercedes, si vous voulez, qui est développé par de nouveaux capitalistes post-carbone. Et qui mise sur l'efficacité des réseaux énergétiques, mais aussi des réseaux numériques, qui vise le développement très rapide de substituts aux fossiles, etc. Bon, moi, je pense que cette guerre des capitalismes, elle est gagnée. La question, c'est
le gagnée par qui ?
Par les post-carbone, évidemment.
Ah bon ?
Les fossiles font de la résistance, mais vous voyez bien que les fossiles, à moyen terme, sont morts. Trump a été incapable de relancer le charbon alors qu'il a été élu sur ce programme.
Ouais, mais sauf que Christian de Pertuis, moi j'ai lu, vous le savez, hein, j'ai lu votre livre, Le tic-tac de l'horloge climatique, et vous expliquez que quand bien même on développe un certain nombre d'énergies alternatives, d'énergies renouvelables, ça n'empêche pas les énergies fossiles de continuer à être exploitées. Et il y a notamment l'exemple fameux de la Norvège, qui est des pays un peu pionniers en matière de développement durable. Pardon, hein, vous allez me dire encore que je fais les réponses à votre place.
Non, là, vous faites la contradiction. Là, j'aime bien. J'adore la contradiction.
Mais il y a donc ce pays,
surtout la Norvège. La contradiction à partir de mon bouquin, si vous voulez.
Ah ben voilà, ça fait de la pub. La Norvège qui développe les énergies renouvelables. et qui en même temps a du pétrole dans dans son sol sous la mer et qui l'exploite. Il y a une route pétrolière pour la Norvège. Donc c'est pas parce qu'on développe une énergie bien renouvelable sûr. Que ça va
mais faire des le capitalisme post-carbone n'est pas complètement stupide, hein. Quand je dis que c'est un capitalisme qui se fonde sur les réseaux, il y a trois forces économiques importantes. Il y a le développement des sources décarbonées, les renouvelables. Il y a la baisse du coût du stockage. Ça, c'est fondamental. On est en train de dépasser des nouvelles bornes grâce à la baisse du coût des stockages. Donc, on peut mettre des batteries dans des bagnoles et ça va rouler à la place des voitures fossiles. C'est une vraie révolution. Pour le... Et puis, il y a la baisse du coût de la gestion intelligente des réseaux qui va effectivement extraordinairement donner un potentiel extraordinaire de diminution des consommations d'énergie. Ça ne sera pas suffisant. Il faudra faire un petit peu d'efforts de réduction de nos dépenses énergétiques superflues. C'est ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Mais je pense que ce mouvement est inexorable et qu'il est porté par des forces économiques importantes. Mais pourtant, ce n'est pas suffisant pour créer les bases d'une société qui devient résiliente par rapport au risque du climat. Pourquoi ? Parce que ces forces économiques s'inscrivent dans un mode très individualiste, elles ne s'écartent pas suffisamment de l'hyperconsommation, si vous voulez. Et puis ensuite, parce que elles sont incapables de gérer l'autre grand volet du risque climatique qui concerne le carbone vivant, l'agriculture, l'océan, la forêt. Vous avez lu aussi le chapitre 9 ?
Ah ben j'ai tout lu. Hein.
Voilà, oui, bon. Et donc, on voit bien que... cette révolution post-capitaliste, elle n'est pas suffisante. Il faudra la dépasser. Et il faudra effectivement, en ce sens, je rejoins, je n'avais pas écouté l'allocution du président, mais je rejoins le président lorsqu'il dit qu'il faudra changer le modèle de développement parce que cette crise nous révèle cette fragilité du modèle de développement.
Mais et cette donc, révolution post-capitaliste, pour vous, Christian Depertu, elle passe par quoi ? Elle passe par les comportements individuels ?
Non.
Ou elle passe par des décisions politiques ? Et si ça passe par des décisions politiques et si c'est une révolution qui doit se faire à l'échelle un peu plus globale, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Est-ce que vous croyez, par exemple, que le multilatéralisme peut permettre d'avancer vers cette révolution ? Aujourd'hui, on n'a pas l'impression que le multilatéralisme, s'agissant de la crise du coronavirus, il est en très bon état. Chaque État réagit un petit peu dans son coin, quand même.
Oui, enfin,
on l'a vu avec l'Europe.
On l'a vu avec l'Europe. On peut pas dire que l'OMS soit quand même quantité totalement négligeable hein, dans la gestion de la crise. Hein. Donc l'OMS est quand même le vrai représentant du multilatéralisme plutôt que l'Europe. Bon, certes, je ne vois pas aujourd'hui de forces politiques organisées qui pèsent à l'échelon international. Par contre, je vois une multitude d'innovations à l'échelle locale. Dont celle qui a été dite tout à l'heure sur le Canada contre les... Et donc, je pense que ce qui va se créer, ce dépassement va beaucoup plus être le produit de forces locales et d'innovations locales qui vont petit à petit faire modifier le tout. Et aujourd'hui, on n'a pas l'organisation de forces politiques. Je voudrais dire un mot quand même, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, du reste du monde.
Qu'est-ce que vous appelez le reste du monde ? Europe et États-Unis ?
On a parlé de l'Asie de l'Est, mais on n'a pas parlé de l'Asie du Sud, l'Inde, le Pakistan, le Proche-Orient. On n'a pas parlé de l'Afrique au sud du Sahara. Bon. On voit bien qu'aujourd'hui, ça se lit dans toutes les déclarations de l'OMS. La très grande crainte de l'OMS, c'est que le virus se diffuse dans des systèmes qui n'ont pas nos capacités de réaction de santé. Et ça révèle aussi toute la difficulté de gérer l'autre risque, le risque climatique, dans ces pays où la sobriété énergique n'a pas de sens. Hein, lorsque on est dans des sociétés où, par exemple, au sud de l'Afrique, pratiquement la moitié de la population n'a pas accès à des systèmes modernes de cuisson, et les systèmes traditionnels de cuisson sont la première source de pollution et de mortalité mondiale par la non-évacuation des fumées. Là, il y a un énorme problème. Donc, moi, je trouve que ce qui va être très important de regarder dans les semaines qui viennent, c'est comment ça va se passer en Afrique, au sud de la Méditerranée. Comment ça va se passer en Inde ? Comment ça va se passer au Proche-Orient ? C'est très important sur le plan sanitaire, car je pense que s'il y a une accélération très forte de la mortalité, ce sera probablement dans ces zones-là. Donc il y a un côté éthique. C'est très important sur le plan climatique de voir aussi que ces pays-là vont jouer un rôle majeur dans les trajectoires de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Car si ces pays se recopient notre modèle de développement basé sur le bon vieux capitalisme thermo-industriel, ce qui va baisser dans ces pays, chez nous ou en Chine, va être compensé par l'augmentation. Et il y a un pays qui est clé de ce point de vue-là, c'est l'Inde. Hein, car l'Inde a un niveau d'émission qui est pratiquement équivalent à celui de l'Union européenne.
Il est 8h45 sur France Culture. Vous restez avec nous, Christian de Pertuis, pour le dernier quart d'heure des matins du samedi. On va parler de culture. Il sera question de gastronomie, de littérature, de musique et dans un instant de poésie.